Bah écoutez, je suis ravie d'être là pour la seconde fois. C'est vrai que je suis venue au mois d'avril et j'ai eu le plaisir de présenter donc le tome 1 de la collection La philo ouverte à tous, avec le titre « Pourquoi philosopher les chemins de la liberté ?». Et en fait, ce sont des ouvrages que je dois vous présenter parce que certains, effectivement, bah, je vous remercie d'ailleurs d'être là, d'être revenu et de me suivre. En fait, la collection La philo ouverte à tous, ce sont des essais de philosophie qui s'adressent au plus grand nombre. J'ai souhaité écrire des essais sur la société d'aujourd'hui et les alimenter avec des exemples, des liens, des parallélismes ou même des confrontations entre les philosophes et la pensée actuelle. Donc ce sont des essais, vous lisez une réflexion que j'ai vraiment portée sur la société d'aujourd'hui et je fais des voyages dans le temps puisque je parle de philosophes régulièrement pour étayer mon propos. L'intérêt de cette collection, c'est que j'ai eu aussi à l'esprit mes souvenirs d'étudiante et c'est vrai qu'un étudiant, je dis pas que c'est un peu feignant mais ça l'est quand même un peu malgré tout puisqu'on n'aime pas chercher ou parfois même nous ne savons pas où chercher. Et je me suis dit, puisque effectivement, parfois je ne sais pas où chercher, eh bien j'ai voulu donner les clés à mes lecteurs. C'est-à-dire, dès que je cite un auteur, eh bien en note de bas de page, vous avez une mini-biographie. Dès que je donne un concept ou que je cite un auteur dont un mot utilisé renvoie à un vocabulaire direct de la philosophie, je donne un synonyme usuel pour que justement il n'y ait pas de difficulté de lecture. Ensuite, je suis professeure à l'université, et notamment à l'université du temps libre de Toulon, et mon public senior avait aussi la préoccupation de trouver des ouvrages qui correspondent un peu à leurs demandes. C'est-à-dire que quand on est actif, quand on a eu un parcours de vie plus ou moins atypique ou varié, on n'est pas étudiant en classe de terminale, on n'a pas de baccalauréat à passer, et on peut s'intéresser à la philosophie. Donc j'ai eu à l'idée d'écrire vraiment sur la société moderne, j'ai eu à l'idée aussi de faire des ouvrages où le caractère est assez gros, justement, pour qu'on puisse lire tranquillement sans être vraiment gêné, et même en déplacement, c'est assez pratique comme format. J'ai eu l'idée aussi parce que mes seniors me disaient, vous savez, on est grands-parents aussi, et on aime parler de philosophie avec nos petits-enfants. J'ai eu l'idée de créer des petits paragraphes qui sont délimités par des chouettes. Et ces chouettes, quand vous mettez ces paragraphes bout à bout en photocopie, eh bien, vous avez un livre pour un ado, ce qui vous permet de faire une double lecture de l'ouvrage de philosophie. Et puis, parce qu'il y a un phénomène de mode, et puis parfois il faut savoir être dedans, quand l'idée n'est pas trop mauvaise. Vous savez que bien souvent les personnes se réunissent pour faire des soirées littéraires, lecture de poésie ou de passages de textes intéressants. J'ai eu pour ma part eu l'envie de faire, en tout cas de donner les clés à mes lecteurs pour organiser des soirées débat ou en tout cas à thème philosophique. Donc à la fin de l'ouvrage, vous avez un ensemble de questions qui portent sur le livre et pareil, à la fin, lorsque tout le monde a pris un peu la parole sur le thème donné, eh bien, vous pouvez tout simplement lire les paragraphes entre les chouettes. Et là aussi, vous avez la réponse du philosophe qui, normalement, doit mettre tous vos invités d'accord. Je dis normalement parce que peut-être aussi ça peut suggérer d'autres débats ou d'autres discussions pour les fois à venir. Alors, jusqu'à présent, sont parus, que je ne me trompe pas, 4 ouvrages de la collection La philo ouverte à tous. Donc, le tome 1, Pourquoi philosopher? C'est vraiment l'utilité de la philosophie aujourd'hui, à l'heure de la télé-réalité, d'Internet, du fast-food, comment se mettre un peu en retrait pour penser. Voilà, tout simplement. Et j'explique qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. Plus on commence jeune, mieux c'est, mais il n'y a pas de retardataire. Quand on s'y prend un peu plus tardivement, parce que dans la vie, on n'a peut-être pas eu le temps de faire de la philosophie quand on avait 17, 18, 20 ans ou 25 ans, eh bien, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour commencer. Le tome 2, qui s'appelle « Voir et penser », celui-ci amène plutôt à une démarche pour comprendre comment, en fin de compte, l'œil, qui est un simple organe, construit progressivement à partir d'observations des expériences, commence à visualiser, percevoir, organiser le monde pour mieux le comprendre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, cet œil devient un œil scientifique. Et l'on voit avant même d'avoir expérimenté. Le scientifique ne fait finalement que vérifier au cours de ses hypothèses, enfin en tout cas ses hypothèses au cours de ses expériences. Par ailleurs, bien sûr, dans Voir et penser, vous l'avez compris, il y a tout le rapport de voir, être vu, puisque nous sommes aussi des êtres qui sont perceptibles à l'œil d'autrui. Donc vous avez toute cette problématique du regard. Et puis bien sûr, eh bien j'avais à cœur en tout cas de parler de cet œil qui est utile dans l'efficacité sportive ou tout simplement dans l'action. Et comme j'ai un coup de cœur, toujours pour ce qui relève de la stratégie et de l'action, eh bien, j'ai abordé cet œil par le biais de la déesse Athéna, la stratège, hein, donc la guerre, pour expliquer comment aujourd'hui on n'a même plus besoin de voir, on pose des questions, on investit le terrain et puis on détecte des présences bien plus qu'on ne les voit en visuel. Par contre, il y eut un temps où la technologie n'était pas encore aussi avertie ou aguerrie qu'aujourd'hui et donc nos soldats devaient utiliser des tenues de camouflage et donc on reportait le règne animal dans le règne de l'homme, si je puis dire, pour se cacher et en tout cas se fondre dans les décors. Bien sûr, une fois qu'on a été dans l'expérimentation, une fois qu'on est passé ensuite par cet œil stratège, eh bien on s'élève progressivement et bien sûr ça se termine avec tout le passage sur l'art, voir et penser dans l'art avec tout ce rapport à la peinture, la photographie, la danse, hein, je pensais notamment à Zarathoustra, le fou dansant, et à ce moment-là c'est ce corps dansant qui s'élève et qui gagne en légèreté, eh bien c'est celui qu'on retrouve aussi dans l'œil qui redescend ensuite de manière introspective avec le connais-toi toi-même et tu connaîtras et les hommes et les dieux. Et les dieux, c'est pour ça que le tome 3, on en vient aux dieux des philosophes. Donc vous pouvez tous les lire dans le désordre en fait, puisque chaque essai se termine. Mais l'intérêt est de suivre peut-être le fil conducteur que moi-même je me suis imposé. J'ai une logique en fait. Et vous pourrez remarquer que le tome qui suit après celui-là, c'est l'homme, je ne sais pas s'il y est, bon ben c'est pas grave. Impeccable, c'est l'homme bouleversé parce que peut-être qu'effectivement, si l'homme ne trouve pas Dieu, il va être bouleversé. Et tout le tome 4 consiste ensuite à comprendre comment sortir de l'absurde, Camus, comment sortir de cet abandon, si Dieu n'existe pas, je suis tout seul, que vais-je faire de ma vie, et comment, en fin de compte, réussir mon projet. Et bien sûr, avec les remèdes philosophiques, on envisagera une certaine sagesse et aussi une mise à distance des passions. Et puis, eh bien, le tome 5 qui paraît dans même pas trois semaines, un mois, eh bien, une fois que l'homme bouleversé a mis de l'ordre dans ses affects et dans ses passions, eh bien, il peut enfin lever la tête et penser le politique, l'organisation de la citoyenneté. Donc, le tome qui va suivre s'appelle « Pourquoi le politique ?» La réponse, c'est toujours dans le sous-titre. Eh bien, la réponse est simple, l'avenir de la citoyenneté, c'est-à-dire à quoi ça sert de structurer une cité, si ce n'est pour justement y réaliser, on va dire, une citoyenneté. Et puis j'ai le plaisir aussi de vous dire que donc mon éditeur Ellipse est sur Paris et que je viens d'avoir l'opportunité et le bonheur de pouvoir écrire pour un éditeur bruxellois, Monsieur Verton, qui d'ailleurs est présent dans la salle, et j'en suis ravie. Et là, eh bien, je suis donc aux éditions Mémogramme pour aussi des petits essais philosophiques. Alors c'est le petit livre rouge, hein. Au moins celui-ci, symboliquement, il aura des choses à dire. Et là, il porte sur le titre de « La sagesse de vivre, les philosophes et la mort ». Alors ne vous attendez pas à quelque chose de mortifère, de triste, parce que c'est pas du tout dans ma pensée, ni même dans ma dynamique intellectuelle. Mais par contre, c'est une réflexion sur comment bien vivre, comment en quelque sorte être dans un bonheur comme ça du sage, et à quoi ça correspond. Parce que bien souvent, on est dans les petits plaisirs, on pourrait penser à Delerme, hein, avec la première gorgée de bière, pour un public bruxellois, je pense que ça vous parle. Sinon, vous avez le banana split, enfin bon, vous avez tous ces moments d'opulence et ces petits bonheurs qu'on accumule les uns à la suite des autres. Et peut-être qu'en philosophie, le bonheur ne se définit pas seulement comme ça, ou en tout cas, doit être repensé à partir des anciens et notamment des antiques. Donc la sagesse de vivre, eh bien, c'est un peu sur ce thème qu'il porte, mais on y reviendra parce que j'aurai l'occasion de le présenter. Alors aujourd'hui, venons-en à ce dieu des philosophes. Alors le dieu des philosophes, il faut savoir qu'il ne faut pas faire d'amalgame en fait, et c'est le propos de mon ouvrage. Il ne faut pas confondre un dieu de la philosophie avec d'autre part un dieu, on va dire, de la religion. Un dieu de la philosophie est un dieu presque neutre, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que c'est un dieu qu'on ne prie pas. Par contre, c'est un dieu qui sera utile à la démonstration et à la pensée. Alors je pense que pour être clair, il vaut mieux que je fasse comme la première fois quand j'étais venue. J'avais dressé comme ça tout un panorama de l'histoire de la philosophie, notamment à partir du pourquoi philosopher. Et aujourd'hui, on va le faire à partir de la question de Dieu. Déjà, il faut s'imaginer l'homme. L'homme, lorsqu'il est jeté dans le monde, eh bien, il se rend compte qu'il est un peu perdu dans un monde qui parfois l'impressionne. Les manifestations, les tempêtes, la foudre, les orages, enfin, tout cela, c'est violent. Ça semble, comment dire, insurmontable parce que la puissance des éléments naturels semble bien démultipliée. Et donc, l'homme s'est retrouvé dans une situation où il lui fallait absolument trouver en tout cas donner une définition à ce qui se manifestait devant lui. Et comme il n'a pas encore un esprit suffisamment aguerri, eh bien il se rend compte que la meilleure des solutions pour lui, c'est tout simplement d'envisager une sorte de déification de la nature. Donc la première pensée de Dieu, c'est une pensée qui amène à dire que la nature est tellement puissante, elle est presque à notre image, j'ai envie de dire, mais de manière démultipliée par la force. Ce qui fait qu'il faut expliquer cette force par une puissance, et cette puissance, c'est Dieu. Donc on invente, j'ai presque envie de vous dire, le dieu du brin d'herbe. Donc vous avez le dieu de la mer, vous avez le dieu du vent, vous avez tous ces dieux qui au départ symbolisent des forces de la nature, des puissances de la nature. Alors je ne dis pas nécessairement que les hommes ont inventé Dieu, mais à ce moment-là, vu qu'ils n'avaient pas encore assez de connaissances, ils ont pensé des divinités tout simplement pour envisager, on va dire, ce monde et lui donner un certain sens. Ensuite, il faut prendre conscience que cet homme, que je décris dans un état presque fictif un premier homme qui sait déjà penser, c'est aussi un homme qui se rend compte qu'il a déjà fait, ou en tout cas bâti des abstractions. Je veux dire par là, quand vous regardez le règne animal, vous voyez que dès qu'un animal est mort, il sert d'aliment aux autres. On se rend compte que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que justement il arrive à penser la mort, il arrive à penser l'abstraction de la mort, et très tôt, il commence à protéger le corps du défunt, et les sépultures le rappellent, hein, on donne les attributs au défunt pour que justement il puisse passer les portes de l'au-delà avec différents objets qui lui porteront bonheur, ou en tout cas qui l'aideront à cheminer pour l'éternité. On le retrouve en Égypte, dans bien d'autres rites d'ailleurs. Ce qui veut dire que quelque part, les hommes ont pris conscience que la mort, eh bien, c'était comme un prolongement de la vie, c'était l'ouverture vers autre chose. Et ça a son importance parce que cette autre chose sera nécessairement peuplée de Dieu. Il faudra que ces morts, ou en tout cas ces âmes, puissent rejoindre un monde de divinité, et par conséquent, les hommes vont penser un supra-rationnel et un lieu qui sera autre qu'un simple lieu terrestre, et ça sera le lieu céleste où vont siéger les divinités. Donc vous voyez, petit à petit, on se retrouve dans une cité qui pense la mort, qui pense des divinités pour expliquer les choses parce que la science n'est pas assez compétente à ce moment-là pour le faire. Et en même temps, eh bien, on transmet par le biais de la parole, puisqu'on est dans l'oralité, on transmet comme ça, de père en fils, les idées, on transmet l'histoire des dieux. Au départ, ces dieux d'ailleurs ressemblent énormément aux hommes, à la différence quand même que peut-être leur puissance est particulière, mais aussi parce qu'ils renvoient à un symbolisme bien spécifique, alors que l'homme en lui-même n'est pas spécialement symbolisé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les dieux sont tout autant embarrassés que les terriens. Pourquoi ? D'abord, ils ont à régler les mouvements des astres. Donc déjà, ils ont à s'occuper de l'univers et de l'agencement de l'univers. C'est un travail énorme. Et ensuite, ces divinités vont avoir des déesses qui seront insupportables. Donc vous allez avoir des dieux qui vont devoir s'occuper dans l'au-delà de régler les problèmes, comme ça, de relations entre certaines déesses, certaines jalousies, certaines perfidies, des règlements de compte qu'il y aura entre elles, etc. Ce qui fait que finalement, on retrouve dans l'histoire de la mythologie des règlements de compte féroces, un côté assez pathétique d'ailleurs de ces divinités. Et si j'en parle brièvement, c'est pour simplement que vous fassiez le lien avec la divinité au sens d'une théologie unique, où le Dieu unique est un Dieu masculin, dans lequel on envisagera plutôt une éternité, une sagesse, une félicité, et absolument pas un monde tel qu'on aura pu l'envisager dans l'Antiquité. On est plutôt dans l'idée que l'éternité, c'est le lieu de l'âme, le lieu du salut, et donc c'est un lieu où, évidemment, il y a la possibilité d'un paradis. Donc il est hors de question qu'on puisse envisager dans l'au-delà des règlements de compte, etc., puisque ça serait reproduire, en fin de compte, le monde humain dans un arrière-monde, on va dire, céleste. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'Antiquité, on se rend compte que les philosophes vont aborder la question de Dieu. Et la notion de théologie, théologos en grec, eh bien ça vient d'un des premiers penseurs de Dieu, ça sera Platon. Alors, il faut savoir que tous les autres philosophes avant lui, je pense aux présocratiques, ces présocratiques ont envisagé la question de Dieu, bien sûr, mais ils ne l'ont pas envisagé de la même manière que Platon a pu le faire. Déjà, les présocratiques, eux, étaient orientés vers l'idée d'une sagesse liée à la compréhension de la nature, la phusis. Et la nature était rattachée à des éléments premiers, l'eau, la terre, le feu, l'air. Et un petit dernier qu'on oublie souvent, c'est l'apeiron. L'apeiron pour les Grecs, c'est l'infini. Eh bien, c'est dans cet apeiron qu'il fallait déjà saisir l'idée de quelque chose d'indéfinissable, ou en tout cas quelque chose qui nous surpassait. Alors quand on en parle, quand on évoque l'idée d'un fleuve dans lequel on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, on comprend qu'il y a une fluidité, qu'il y a quelque chose qui passe et qu'on ne rattrape pas. Mais l'apeiron, c'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qui renvoie à du muable et même du mutable, comme on dit. Donc dès l'Antiquité, on va dire que ces présocratiques auront déjà envisagé une physique des éléments et une alchimie des éléments, j'ai presque envie de vous dire, qui donnera quelque chose d'un peu plus spirituel. Et déjà, on va établir une cassure entre le phénomène, c'est-à-dire le phénoménon, ce qui apparaît, ce que nous voyons, et de l'autre côté, la réalité, c'est-à-dire tout ce qui se cache derrière le phénomène, mais auquel nous n'accédons pas. Alors ça, il faut le comprendre. Vous observez par exemple un arc-en-ciel, vous voyez un phénomène lumineux se produire à partir de la réfraction du soleil dans l'eau, mais quand vous voyez cela, vous n'êtes pas en train de dire « tiens, voilà un phénomène d'optique ». Vous dites tout simplement « il y a un arc-en-ciel ». Donc il y a le phénomène et ensuite il y a la vérité de ce phénomène. Eh bien, c'est cette séparation entre les deux qui va amener, en tout cas, les philosophes de l'Antiquité, notamment les présocratiques, à envisager deux possibilités de choses. Mais ces choses, ils les envisageront avec un premier degré, le phénomène, et ce qu'il y a derrière, le noumen, comme dirait Kant. Platon va amener quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans de l'horizontalité, c'est-à-dire avec un phénomène et une réalité derrière. On est avec un phénomène et la réalité, on va la placer là-haut. C'est-à-dire qu'on change, on passe d'un plan horizontal à une verticalité. Et donc on parle de théologie parce que cette fois-ci, on parle d'une transcendance pour évoquer Dieu. Et là, c'est plus du tout la même chose. Ensuite, vous avez certainement lu du Platon et donc vous vous rappelez Socrate. Socrate a été initié à l'école des mystères. Il a travaillé, entre guillemets, avec l'école de Pythagore. Donc il a été initié à quelque chose de mystique. Socrate était celui qui n'a pas créé la théorie des idées, puisqu'on sait que c'est Platon qui en est le père. Mais Socrate, c'est toujours celui qui a dit qu'il y avait un monde sensible et qu'il y avait une autre réalité qui se jouait. Et on sait que Platon, qui a rencontré bien sûr Socrate, Platon au départ c'était un poète, c'était pas du tout un philosophe. Quand il a rencontré Socrate, il y a une sorte de révélation, et c'est la discussion entre ces deux penseurs, Socrate, Platon, qui a fait en quelque sorte réfléchir Platon sur la question de Dieu, et qui amènera plus tard Platon à écrire une théorie des idées, qu'on retrouve dans le Phèdre, mais qu'on retrouve aussi dans la République. Alors Platon, comme je le disais, il envisage un arrière-monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se base pas sur une mythologie antique. Tout simplement parce que la mythologie considère plusieurs dieux. Cette multiplicité de dieux, pour lui, c'est pas compatible avec le principe premier. Le principe premier, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de l'ordre. Ce qui est passionnant, c'est qu'il faut lire le Timée pour savoir qu'en réalité, avec Platon, on n'est pas dans la multiplicité des dieux, mais dans l'unicité. Mais comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que la priorité chez Platon est accordée au monde des idées. Le monde des idées, pour lui, ce sont les archétypes, ce sont les modèles. Donc imaginez, ce sont des vertus absolues, le beau, le vrai, le juste, la tempérance et le souverain bien. Imaginez cinq vertus absolument formidables qui sont posées, on va dire, dans le ciel, et qui sont à l'origine de tout ce qu'il y a sur terre. Mais elles n'ont pas la puissance pour engendrer ce qu'il y a sur terre. Pourtant, nous, communs des mortels, nous sommes là à poser la question d'où venons-nous ? Donc il a bien fallu qu'entre des vertus posées dans le ciel et l'homme ici-bas qui vit, qu'il y ait un élément qui mette en œuvre les choses. Et c'est là qu'intervient le démiurge. principe unique chez Platon. Le démiurge, il ne faut pas le considérer comme le dieu de la chrétienté, bien sûr. Le démiurge, c'est vraiment au sens grec du terme celui qui crée, celui qui façonne, celui qui agence, qui ordonne. Et comme Platon a souvent pris l'exemple de la peinture, il faut s'imaginer les vertus, un démiurge qui serait comme un peintre qui, copiant les vertus, réaliserait le monde sensible dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous comprenez pourquoi Platon, après cela, va dire que le monde des idées est un monde parfait. Idée, en grec, c'est aideos, ça veut dire les formes. Que le monde sensible, qui n'est qu'une imitation des formes initiales, est un monde corrompu, parce que ce n'est plus un monde intelligible. Et vous comprenez aussi pourquoi, par moment, dans certains de ces ouvrages, vous pouvez constater une sorte de critique à l'égard des artistes, parce que l'artiste, c'est celui qui va peindre le monde d'ici-bas, donc il fait la copie de la copie. Les idées, c'est l'exemple premier. On peint les idées en faisant le monde, et l'artiste arrive et peint le monde, au lieu de peindre véritablement la vertu. Donc on se retrouve avec la copie de la copie. C'est comme si on était dans le plagiat absolu de la vertu. Donc vous comprenez à ce moment-là comment se s'est créé le monde à partir d'un démiurge, et vous comprenez aussi pourquoi, parce que là je pense que ça va faire écho dans votre esprit, pourquoi par la suite, lorsqu'on a parlé d'un dieu unique, notamment un dieu de la révélation, et qu'on a fait voyager tous ces textes des grands philosophes à travers la Méditerranée, eh bien vous comprenez pourquoi on a fait quelques coupes dans le texte, parce qu'il était impensable, on va dire, que pour un dieu qui était le créateur, eh bien, il y a eu des archétypes qui existent avant lui. En bref, ce que je veux vous dire ici, c'est que le démiurge platonicien n'est pas l'auteur. Il est juste le moteur de la réalisation. Donc, bien évidemment, vous comprenez pourquoi. Ben, le Timée, il y a eu quelques coupes, notamment pendant la période du Moyen-Âge, parce que ben, ce n'était pas compatible avec l'idée qu'on se faisait de Dieu. Alors, reprenons. Je vous ai parlé de ces présocratiques qui envisageaient des principes premiers pour comprendre l'univers. Je vous ai parlé de ces mêmes présocratiques qui ont compris avec beaucoup d'habileté qu'il y avait déjà de l'atome, en quelque sorte, hein, comme dirait Démocrite. Ils ont compris qu'il y avait une réalité qui se manifestait et puis une réalité qu'on ne voyait pas, mais qui se montrait sous un certain jour. Et puis il y a eu un théologos, un théologien, le premier philosophe de la pensée de Dieu, Platon, qui lui a déjà placé un dieu là-haut. Mais en même temps, c'était pas suffisant, il fallait aller plus avant. Et c'est le disciple de Platon, Aristote, qui va compléter la théorie en disant « Il faut penser Dieu à partir du titoon en grec, ça veut dire « D'où venons-nous »« Qu'est-ce que l'être ?» Et là, on revient aux fondamentaux. Et quand on dit « Qu'est-ce que l'être ?» Eh bien, c'est tout simplement ce qui est, et ce dont nous participons d'ailleurs, puisque nous vivons, nous existons, ontologiquement « je suis », phénoménologiquement aussi, puisque vous me voyez, mais entre les deux, il y a une différence entre l'être qui parle et l'être qui se donne à voir. Aristote, c'est celui qui va poser la question « d'où venons-nous ?» va remonter la grande chaîne de causalité d'aujourd'hui, plutôt de son époque, jusqu'au moment premier de la création, et il dira « il y avait de la matière, cette matière était inerte, et il a fallu, comme quand on veut démarrer une voiture, mettre en mouvement, c'est pour ça qu'il appellera Dieu le premier moteur, il a fallu mettre en mouvement la création. » Donc c'est comme si tous les atomes avaient été posés, que Aristote envisage un Dieu qui donne un coup de pied dans la fourmilière et à partir de ce moment-là, tout va se mettre en œuvre, tout va s'animer. C'est pour ça que d'ailleurs la théorie de l'âme a beaucoup d'importance pour lui. Et cette animation, eh bien, c'est ce qui va produire par effet dérivatif, puisqu'on parle toujours en rapport de cause à effet, eh bien, on sera de l'origine à nos jours la continuité de ce mouvement donné au monde par Dieu, le premier moteur. Aristote, Platon. L'un est dans la linéarité parce que vous savez que Aristote, c'est le biologiste, le père médecin. Aristote, c'est celui qui pense la classification des espèces. Aristote, c'est pas le philosophe de la métaphysique ou de la dialectique. C'est pas Platon. Platon, lui, c'est plutôt dans les hauteurs. Donc vous avez deux penseurs qui disent la même chose. La matière était là avant que le démiurge mette en mouvement. vous comprenez pourquoi ce sont deux auteurs dont on coupera certains passages des ouvrages et qu'on retrouvera d'ailleurs les extraits un peu plus tard, parce que vous savez que la philosophie, elle n'est pas née en Grèce, parce qu'elle a beaucoup voyagé avant de dire qu'elle est grecque. C'est le miracle grec, surtout. C'est la pensée grecque, mise en œuvre par la Grèce antique, qui nous interpelle. Mais c'est le résultat de siècles déjà de pensée. Mais on sait quand même que les grands penseurs grecs, ce moment où en démocratie, on a parlé de philosophie, y compris de philosophie politique, eh bien les textes ont voyagé dans la Méditerranée. D'Aristote, Platon, on a voyagé, on a transposer les textes en grec, en arabe, d'arabe, en juif, en hébreu, pardon, et d'hébreu, ensuite dans la version latine. Tout a voyagé dans la Méditerranée, notamment dans le nord de l'Afrique. Et tous ces textes, à chaque fois, ont été repensés par les philosophes qui les ont eus entre leurs mains. Et donc, les penseurs arabes ont eu un travail énorme à faire de transposition de la pensée d'Aristote. Les catégories, ça pouvait correspondre, effectivement. Il y avait la possibilité, bien sûr, de penser cette philosophie d'Aristote. Mais quand on a commencé à envisager la pensée du Dieu unique, qui s'était révélé aux hommes, et qui était celui qui avait créé non seulement la matière, mais aussi la forme, eh bien, il n'était plus possible que tous les textes soient transmis comme ça, dans la totalité. Et donc, on a laissé, pendant quelques siècles, on va dire, de côté certains passages de ces grands philosophes. Tout ça pour vous dire que la grande question, c'est d'où venons-nous ? Et qu'on répond dans l'Antiquité par une cause première. Nous venons de cette cause première, principe unique d'agencement, d'organisation, de mouvement. Et à partir de lui, on comprend pourquoi nous sommes là. Ça ne répond pas complètement à la question, parce que la cause première, elle vient d'où ? Il faudra attendre Spinoza. Spinoza vous dira, les causes suivent, c'est-à-dire les causes d'elle-même. C'est-à-dire que si personne ne l'a engendrée, elle est la cause première, à n'en point douter. Mais avant cela, les philosophes de l'Antiquité, vous savez, après, on est dans les grands changements, on va passer aux philosophes des écoles. Alors, on peut penser à l'épicurisme, on peut penser au stoïcisme, on peut penser au pyrrhonisme, etc. Dans tous les cas, vous avez des mouvements dans lesquels, à chaque fois, on va penser les dieux. Mais comme on est dans une sorte d'effritement, déjà, de la pensée, comme on a déjà transposer les textes. Et puis, vous savez que la philosophie à Athènes, elle s'est délocalisée ensuite vers Rome. Et Rome a repris, bien sûr, une part des pensées grecques. Mais il n'y a pas véritablement de philosophie romaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que à Rome, la citoyenneté telle qu'on la concevait dans l'Antiquité grecque, eh bien, c'est un peu étiolé. On participait moins aux débats, aux échanges. Donc, la pensée circulant moins, dans l'oralité, je précise bien, on oubliait un peu ce qui pouvait se dire. Et puis ceux qui écrivaient, parce qu'on sait bien que c'est dans le Phèdre que Platon explique que ça y est, on change de mode de vie dans la cité, puisqu'avant, on transposait comme ça par la parole et on transmettait. Et dans le Phèdre, Platon dit « J'assiste à un grand changement dans la société, c'est que maintenant on écrit ». Et ça change tout. D'ailleurs, je conseille souvent à mes étudiants en classe de terminale ou même à la faculté, je leur dis, lisez le Phèdre de Platon, vous avez un cours dans lequel on vous apprend à disserter. À la limite, le meilleur prof, et je ne critique absolument pas mes collègues, je me mets dans le panier là, le meilleur prof en méthodologie, c'est le cours sur la dissertation réalisé par Platon lui-même dans le Phèdre. Alors on lit ça et on comprend que tout est basé sur des arguments, l'enchaînement des idées, etc. etc. Vous lirez si vous en avez envie. Donc on change de modalité. De l'oralité, on passe à l'écriture. En même temps, vous comprenez, je parle de l'écriture parce que ça aura aussi sa valeur, les écritures saintes. Donc vous comprenez qu'on change de modèle, on change de modalité d'existence. Les philosophes qui défendaient l'idée d'une cause première, les philosophes qui avaient été éduqués à tous ces rituels qui avaient posé et structuré la cité et qui célébraient des divinités, se retrouvent du jour au lendemain, notamment pour les derniers philosophes de l'Antiquité, confrontés à la pensée d'un Dieu unique et en même temps dans la difficulté de concilier leur pensée avec la nouvelle pensée qui se fait jour. Et donc on voit que les écoles, notamment les stoïciens, les épicuriens, etc., vont essayer de lutter encore quelque temps en privilégiant, on va dire, une philosophie antique. Et puis petit à petit, ces écoles vont plus ou moins s'éteindre. J'ai plus ou moins s'éteindre parce que c'est toujours la mode, le stoïcisme, mais on l'a repensé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Eh bien, étonnamment, on a repris la même pensée de sur ces dieux qu'on avait pu la concevoir dans la pensée présocratique. C'est-à-dire qu'on n'était plus en train d'imaginer des divinités qui étaient là à surveiller les hommes pour savoir s'ils allaient ou pas faire des bêtises. On n'était pas non plus dans l'idée de la peur ou de la protection, ce que l'on cherchait à l'origine. Mais plutôt, on se rend compte que ces divinités, eh bien, s'occupent, comme je disais tout à l'heure, de l'harmonie céleste. Ces divinités s'occupent, bien sûr, de l'agencement des choses. Elles s'occupent aussi du temps, Chronos, n'oubliez pas. Et on réalise petit à petit que finalement, eh bien, elles ont autre chose à faire que d'embêter les hommes, ou en tout cas de les espionner. Ce qui fait que les philosophies stoïques, épicuriennes, etc., sont des philosophies qui vous rappellent qu'il ne faut pas craindre les dieux, comme il ne faut pas craindre la mort, puisque de toute façon, ils ne sont pas là pour nous observer, donc il n'y aura pas, en quelque sorte, de punition céleste, ni même de mauvais sort à défier le destin. Ce qui fait que le dernier philosophe de l'Antiquité, et qui devient en même temps le premier philosophe presque de la chrétienté, ben c'est Plotin. On basculera après sur saint Augustin, ne vous inquiétez pas. Mais Plotin, pourquoi? Parce que Plotin, c'est quand même le philosophe qui, lui, envisage bien l'idée comme ça de cette descente au fond de soi. Mais cette descente au fond de soi, comme le disait l'oracle de Delphes, hein, l'introspection, connaître les hommes, connais-toi toi-même, hein, connaître les hommes, c'est aussi connaître les dieux, eh bien ça veut dire que Plotin a compris que s'il travaille sur lui, s'il passe par ses hypostases, eh bien il pourra progressivement trouver Dieu et s'élever à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut déjà descendre, ça rejoint le bouddhisme, hein, pour retrouver une forme de pureté intérieure, et c'est à partir de cette pureté intérieure qu'on pourra trouver une sorte de lumière, mais une lumière cachée au fond de soi. On transpose, saint Augustin, cette lumière au fond de soi chez saint Augustin, c'est justement la foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, nous le savons, il y a eu le dieu de la révélation. Un dieu qui n'est plus simplement un démiurge, c'est un dieu qui, dès le début, est défini comme étant le créateur de la matière, du monde et des créatures, ce qui fait qu'on positionne Dieu et moi. Bien évidemment, quand vous entrez dans une église, vous l'avez bien compris, tout est fait de telle sorte qu'il faut lever la tête. Donc immédiatement, on comprend l'élévation. Immédiatement, on est dans la transcendance. Et on le vit bien plus qu'on ne le pense. Ce qui fait qu'on réalise qu'au départ, tout ce rapport au religieux, ça sera un rapport symbolique. D'abord parce que beaucoup ne sont pas forcément dans l'érudition. La plupart des gens sont plutôt incultes, on va dire. Par contre, ceux qui étudient vont bien évidemment le faire. Alors, ça sera un peu périlleux pour étudier, parce qu'au départ, on étudie dans les monastères. Alors, pas tous les moines. Certains moines, eh bien, s'occupent des travaux des champs, s'occupent de l'organisation de la vie en collectivité. Et puis les autres, eh bien, sont sélectionnés pour étudier. Et on se rend compte, notamment avec la naissance des universités, qu'il faut attendre le XIIe siècle pour que les universités soient véritablement créées et pour qu'il y ait à ce moment-là la possibilité de concevoir un enseignement bien particulier et en latin surtout. Donc on comprend qu'il y a une symbolique du sacré, on comprend que Dieu se révèle aux hommes. Comme il se révèle aux hommes, il est créateur, eh bien il est tout-puissant. On en revient à cette relation initiale. Il est tout-puissant, donc certains vont le redouter, craignant sa colère. D'autres, au contraire, vont le louer et vont l'appeler de leur fort intérieur. Saint Augustin notamment, lorsqu'il fait référence à la grâce de Dieu. Il dit « Lorsque Dieu me soutient, lorsque je suis tellement désespérée que j'ai l'impression que je ne tiendrai plus, je me rends compte que je ne m'effondre pas. » Ce qui veut dire que Dieu, malgré tout, me porte, me sous-tend, et c'est ça la grâce. C'est ce moment particulier où l'on pourrait renoncer, et finalement, on tient bon. Mais on ne serait pas capable de dire pourquoi. Il y a des très belles pages hein, de Saint-Augustin sur la grâce. C'est magnifique ce qu'il écrit. Et chez Plotin aussi, hein, la grâce et l'amour, parce que c'est lié, hein, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est corrélé. Très rapidement, on définit Dieu. On lui donne des qualités. C'est-à-dire que si vous lisez le discours de métaphysique de Leibniz, vous verrez qu'il est tout-puissant, qu'il est parfait, qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, omnipotent, il est en chaque chose, etc., etc. C'est-à-dire que, ça y est, Dieu, c'est non seulement cet être tout-puissant qui est à l'origine de tout, mais c'est aussi un Dieu qui va falloir, en quelque sorte, aborder par la philosophie et pas seulement par la foi. Et ça sera le grand dilemme, on va dire, du Moyen-Âge. Alors, je dis grand dilemme, oui et non, parce que finalement, ça a nourri la pensée et ça l'a même nourri de manière particulièrement intéressante. Je vous parlais tout à l'heure des universités, parce que c'est quand même fascinant, cette histoire des universités. Rappelons-nous, les textes des philosophes voyagent en la Méditerranée, arrivent donc par l'Espagne, Cordoue, et remontent ensuite par le bassin méditerranéen. Bassin méditerranéen, on sait que les premières universités, Montpellier, Béziers, c'est la médecine, l'aromathérapie. Et justement, ce sont les Arabes qui ont la sagesse de la médecine. Ils l'ont parce qu'ils tiennent ça de la Grèce, Corinthe notamment, l'endroit où justement on soignait les gens. Je dis soigner, attention, à l'époque, on voulait que vous soyez frappé de torpeur, on dit. C'est-à-dire qu'on vous mettait dans un état de frayeur absolue pour que le mal sorte. Certains ne s'en sortaient pas, hein. Je veux dire, c'était pas, il n'y avait pas à hésiter, c'était l'un ou l'autre. Mais malgré tout, il y avait un art de la compréhension du vivant par l'harmonie. Il y avait des liens que justement les philosophes avaient déjà établis, qui ont été, repensés par les Arabes. Et donc, lorsqu'on remonte vers la Méditerranée, eh bien, c'est eux qui, au départ, ont initié ces universités de médecine. Universités de médecine dans lesquelles on avait le droit de faire une autopsie tous les 2 ans. Et attention, quand on parle d'autopsie, c'était des autopsies sur des animaux parfois, c'était pas sur un homme, hein. On pouvait autopsier une grenouille. Mais on n'avait pas le droit à l'époque de pratiquer l'autopsie telle qu'on pourrait l'envisager aujourd'hui dans nos facultés de médecine. Donc, on était sur l'aromathérapie, on comprenait aussi que les astres avaient un lien avec la santé, on était plutôt sur une philosophie du bien-être, j'ai presque envie de vous dire, et l'équilibre passait par l'harmonie et puis par les éléments. Et puis on s'est rendu compte que, bien entendu, comme il y avait ces universités qui étaient un peu libertines, puisque vous avez compris, elles étaient purement scientifiques, le pape lui-même a pensé les universités qui seraient typiquement de théologie. Paris. Après, on SM, Tours, et puis Angers, etc. Et toutes ces universités ont chacune, on va dire, pour but de transmettre la philosophie et les pensées. Nous sommes encore dans le siècle d'or, c'est-à-dire que ce Moyen-Âge est un Moyen-Âge de richesse. On échange des textes, on lit, on travaille ensemble, on est dans une coordination des savoirs. Jusqu'au moment où le pape va avoir l'impression qu'on fait un peu trop de science et pas assez de théologie. Et puis on va inventer un genre nouveau, la disputatio, c'est-à-dire un art particulier qui fait que le maître qui commence à disserter verbalement n'est pas interrompu. Seul le meilleur et le plus brillant des étudiants aura droit, à l'issue de sa leçon, de poser une ou deux questions. Quand la question sera posée, le maître répond ou pas. Et vous avez comme ça un enfermement progressif de l'enseignement sur la parole du maître, maître qui lui-même est nommé par le pape. Les universités dans lesquelles on enseigne la poésie, l'astronomie, la philosophie sont considérées comme des universités décadentes. On instaure un petit climat de délation, l'inquisition, et puis c'est parti. Ce siècle d'or bascule en siècle noir. C'est-à-dire que, vous savez que on parle des deux légendes lorsqu'on parle du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est plusieurs siècles, vous l'avez bien compris. Et donc, on a eu vraiment un siècle, une partie, on va dire, du Moyen-Âge, où on a échangé tout ce que l'on pouvait transmettre, bien sûr. Et puis, il y a eu une partie, bien évidemment, il y a eu de la censure, il y a eu, bien sûr, des délations, il y a eu des procès, il y a eu des bûchers, des boucheries aussi, hein. Il y a eu des bûchers, enfin bref, il y a eu des choses absolument horribles, tout simplement pour préserver, on va dire, le texte sacré. À l'époque, on était dans la transmission. Transmission du dogme, bien sûr. Transmission de la parole sainte. Il fallait répéter les paroles de Dieu pour les faire siennes. Alors, bien sûr, à ce moment-là, on a considéré qu'il y avait 2 théologies. Si dans l'Antiquité, avec Platon, nous avions un théologos, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait le logos à partir de Dieu, en posant la question d'où venons-nous, la théologie révélée va bien évidemment, en quelque sorte, s'opposer à la théologie rationnelle. La théologie révélée, eh bien, c'est saint Anselme. Il dit que rien de plus grand que Dieu ne peut exister, donc Dieu lui-même existe, puisque rien de plus grand que lui n'existe, et donc, par conséquent, ne peut exister de par lui, eh bien, lui, il existe et il comprend tout. On va pas plus loin. Mais on a la foi en cette parole et ça suffit pour bâtir tous les raisonnements à partir de cette foi. Et puis il y a la théologie rationnelle, celle qui a besoin de démonstration. Alors vous savez qu'à l'époque, quand on parle de démonstration, on remet pas en cause l'existence de Dieu, hein. Par contre, on s'interroge sur la science de Dieu. Comment Dieu a-t-il pensé le monde? Est-ce qu'il l'a seulement pensé? Comment a-t-il réalisé le monde? Comment a-t-il envisagé cette universalité, cette possibilité d'harmonie dans le monde, etc. Et donc, ce sont les questions que se posent les théologiens, et ce sont des questions qu'on se pose d'un lieu à un autre, d'une université à une autre. Pendant ce temps-là, le peuple prie. Le peuple se tourne vers Dieu quand il a besoin d'un soutien moral. Il se tourne vers Dieu aussi quand parfois il a péché, bien sûr, et il est un fervent chrétien, puisque d'une certaine manière, il n'a pas vraiment d'autre choix que celui-là.